L'arroser.
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 L'arroser, une émission culture, et pas que. On y parlera théâtre, on parlera musique, on fera le tour des lieux et des événements. Il y aura des invités, du live, tous les troisièmes lundis du mois, à partir de 16h30 et jusqu'à 18h. Sur Radio Galère 88.4.
Et messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour la rosée. Bienvenue messieurs, dames, hein, dans cette émission, il est 16h30, 40, on est un tout petit peu en retard. Mais personne ne le reprochera, enfin je l'espère en tout cas. Je suis avec, en attendant qu'Ilan règle deux, trois choses, et je suis avec Thelma. Salut Thelma.
Salut, coucou.
Qui est revenue, apparemment ça t'a plu la dernière fois.
Ouais, c'était chouette.
Tu ne détestes pas encore, ça va.
Pas encore, mais pas ça, encore, va peut-être
ça,
venir.
Va, ça va peut-être venir. Mm-hmm. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu, donc bienvenue sur La Rosée, hein, j'ai oublié de vous le dire. On va changer ce jingle, dans pas longtemps il faudrait Ilan qui est
bonjour.
Enfin parmi nous, bonjour Ilan.
Bonjour mes chers amis.
Comment vas-tu ?
On va mettre un jingle plus joyeux, effectivement, on va trouver une autre
musique. Il faudrait,
hein. Ah, mais il est sympa quand même.
Non, merci David de nous l'avoir fait.
Merci beaucoup,
c'est
David.
C'est génial, mais on va non, peut-être le changer. Et aujourd'hui, on va parler un peu poésie, un peu musique.
C'est un peu une sorte de d'émission confinement, comme la dernière.
D'émission confinement, ouais.
Donc lecture. Exactement. Qui dit émission confinement, dit lecture.
Pour vous qui êtes chez vous, peut-être si vous n'avez pas le livre ou pas de, comment on dit ? Tu sais, les trucs numériques, là.
Ouais, audible.
Oui, audible.
Audible.
Ouais, tout ce que j'aime. Mais si vous n'avez pas ça, nous, on va vous faire un peu de lecture de poésie.
Alors, on rappelle qu'on est sur Radio Galère 88.4 et que vous pouvez nous appeler à tout moment au numéro. En fait, j'allais dire à Lucas, notre ingé son, de le dire, mais je l'ai sous les yeux aussi.
Merci, Lucas.
Vous pouvez donc nous appeler à tout moment pour parler avec nous, dire ce que vous voulez, nous insulter. Non, je rigole. 04 91 08 28 10.
Voilà, on est parti, messieurs, dames. Ça y est, vous avez toutes les informations.
Vous voulez
autre chose. Bah, du coup, appelez si vous voulez autre chose.
Du coup, appelez. Si vous voulez vous joindre à nous, discuter avec nous.
Nous, on est sympathiques. On vous reçoit avec plaisir. Thelma, qu'est-ce que tu as à nous lire aujourd'hui ?
J'ai ramené mon recueil de poésie qui s'appelle Faux aphorismes d'une personne que trop ordinaire. J'avais déjà lu des petits extraits la dernière fois.
Rapidement, ouais.
Et du coup, bah, je reviens avec parfois les mêmes, parfois des extraits différents.
Alors explique-nous juste un petit peu, parce que moi-même je me suis posé la question tout à l'heure.
Ouais.
En fait, ton livre, il est édité, entre guillemets ?
Non, en fait, je l'ai juste imprimé.
Mais il a une belle forme quand même.
Ouais. Ah ouais. Bah, il y a une forme finie, je pense juste rajouter quelques poèmes dedans, corriger des fautes, hein, parce que t'en as vu quelques-unes. Et en écrire plus pour essayer de faire un format plus petit, parce que là c'est un format A4 et c'est un peu encombrant. Mmh. Et j'aimerais que ça se trimballe partout, tu vois.
Et comment ça se passe ? C'est, en fait, c'est, donc voilà, c'est pas du tout une édition, mais
non.
C'est quoi ? Ça se passe sur Internet ?
C'est ça, ça s'appelle, c'est sur Colibri, c'est une imprimerie française, je crois, qui sont basées à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Et c'est, ça coûte pas très cher, et je trouvais ça chouette, et j'étais très emballée à l'idée d'avoir mes textes en livre, parce que j'adore lire, et voilà, pour moi, c'était un petit accomplissement.
Et tes textes, tu les as déposés, tu les as protégés ?
Non.
Alors fais attention si tu le vends, parce que vu qu'il n'y a pas de numéro de...
En fait, j'ai un ISBN, code
barre
qui me permet de le vendre, et etc. Mais c'est
si
vrai que...
Si tu as un ISBN, normalement, il y a une protection, quelle qu'elle soit, non ? C'est pas possible.
Ouais, je sais, en vrai, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais j'allais dire des bêtises, ouais, mais je vais me retenir d'en dire. Mais oui, je vais... voilà. Mais pour l'instant, c'est comme ce n'est pas encore ce que j'ai envie de faire, enfin vraiment de le vendre, j'ai envie vraiment de le finir et de bien le faire. Donc on verra
oui,
en temps et en heure.
C'est vrai qu'on est tout de suite parti sur autre chose que la poésie. Excusez-moi, autant pour moi d'avoir parlé.
Super concret. C'est...
Alors est-ce que tu as fait attention là ?
Et avant de nous parler, de nous lire tes textes, Thelma, on en a parlé un peu avant.
Ouais.
On a des petits projets, comment dire
Petits projets à grande envergure.
En ce moment, tu prépares un petit projet de représentation.
Ouais, bah on s'est dit... On habite au quartier des Réformés et en fait dans la rue dans laquelle on est, il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de jeunes et on a la chance ou je sais pas l'audace d'avoir un peu parlé avec tout le monde, la chance et l'audace d'avoir rencontré tous ces gens. Il y a vraiment une bonne ambiance dans la rue, dans l'immeuble avec les voisins et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pendant ce confinement. Et comme on se voit un petit peu tous, on a décidé de créer une forme de spectacle, si on peut dire, qui mélange le théâtre, lecture de texte et musique. Avec des amis dont vous faites partie. Et on va faire ça samedi voilà, chez nous, à la maison.
Moi, je suis très heureux que tu sois là avec nous pour, et que tu acceptes d'en parler parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'étonnamment résistant.
Hors la loi.
C'est complètement ridicule de dire hors la loi. C'est même hors décret, si tu veux. Ouais. Mais ça veut rien dire un peu. Non, mais dans le sens où c'est résistant symboliquement, déjà purement. Pas juste on fait quelque chose alors qu'on est confiné, mais plutôt dans le sens on fait quelque chose confiné, mais gratuit, d'art, avec des voisins.
Ouais.
Dans quelque chose. Déjà. Enfin. Oui, c'est un peu con de dire ça, mais
plus peut-être que de la résistance, ouais. Non, mais
c'est peut-être que tu n'aurais pas eu l'idée sans le confinement.
On avait eu l'envie, mais on voulait le faire à l'extérieur, en fait. On voulait vraiment faire des choses pour le quartier à l'extérieur. Il y a une rotonde au rond-point Alexandre Labadier, au Réformé, qui est une place où on peut faire vraiment beaucoup de choses.
D'ailleurs, tu sais si elle est accessible au public ou pas ? Comment ça se passe ?
Il faut avoir des clés, il faut faire des demandes à la préfecture, je crois. C'est vraiment un joyeux bordel. Mais je sais pas pourquoi cette place est fermée. J'ai pas eu le temps de m'y intéresser parce qu'on a été confinés. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de le faire.
Je crois que c'est une question parce que Zara, mal quartier, mal famé.
Ouais, je pense que c'est ça. Que ça place. Squatte. C'est ridicule. Bah, surtout que ça vit, tu vois, les dimanches, elle composte. Il y a le festival des Cancans qui fait normalement en mai un week-end.
Il y a du marché aussi dessus.
Il y a du marché normalement, mais là, il s'y passe quasiment
plus. Bah, place là-bas.
Il y a des élèves, des fois, de temps en temps, avec des écoles qui vont faire des choses.
Plus que de voir ça comme de la résistance, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu, on se retrouve dans une situation où on est dans un confinement, du coup, on voit. Où on pourrait voir potentiellement ça comme de la résistance, alors que c'est juste l'envie des gens de continuer. Je vois plein de gens mourir d'ennui chez eux là actuellement et tourner en rond. C'est le besoin qu'on a fondamentalement.
C'est ingénieux. C'est une ingéniosité, c'est-à-dire c'est de résistance dans le sens c'est on nous pose des murs qui font des labyrinthes, tu vois, comme une n'importe quoi, une ville ou des lois. Et nous on dit oui,
sans
d'accord,
que ce soit négatif,
ça existe
forcément.
Sans que ce soit... Ah oui, c'est totalement neutre de base. Enfin, après évidemment, il y a toujours des intérêts à construire une rue là ou à faire une loi comme si. Mais et donc ensuite nous on dit oui, mais en fait on peut passer par là. Genre la rue elle fait ça et ça, mais nous on va y aller en marchant comme ça. Et là c'est intéressant, et je sais pas si cette espèce de dire on est confinés ensemble, ben je vais faire un truc avec les gens de mon immeuble. C'est-à-dire comme si tu respectes leur truc.
Mais
c'est le cas en plus, c'est
presque hein.
Tu m'as dit que tu allais mettre du gel à l'entrée en bas.
Il y a du gel à l'entrée, après
en
voilà.
En soi, c'est pas une volonté. C'est ça qui est encore plus drôle. C'est que c'est pas une volonté d'être contrecarré des plans installés, une loi appliquée ou quoi.
Oui, parce que si les gens ont peur aussi, ils viendront pas libres à chacun de venir ou de pas venir. Nous, dans le quartier, comme je disais, on se voit en fait. Donc on se voit, on se parle, on se rend des services. Donc il y a un échange, on est toujours à côté, les normes sanitaires entre nous. Voilà, on a compris que ça fait un moment que on se fréquente, tu vois. On va pas fréquenter.
Oui, ce serait hypocrite. Non, mais c'est d'autant plus intéressant.
Puis l'idée, c'est on continue d'être, tout simplement, déjà, quand même, avant, même si les gens peurent, pas peur, ils viennent pas.
Oui, mais après, moi aussi, je me ferais sacrément chier s'il n'y avait pas ça. Et je suis assez contente que déjà vous ayez répondu à l'appel du spectacle et de la création. Enfin bref, et que les autres copains aussi, quoi.
Ouais,
donc c'est cool. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on fait ça samedi, mais moi je suis pour que ça ne s'arrête pas là et qu'on puisse faire dans d'autres appartements, de d'autres voisins, qu'on rajoute des gens qui veulent participer à la forme et que ça soit un truc participatif et progressiste.
Et en plus, tu vas faire en sorte d'avoir un espace, c'est-à-dire que tu vas monter... avec tes amis, une sorte de petit chapiteau.
Il y a un chapiteau dans l'appart.
Intérieur.
Ouais, pour que les gens aient la sensation d'être espace...
Je fais comme si je le découvrais, mais oui, je sais. Non,
on a parlé hier.
Et tu vas venir m'aider à installer, surtout.
Oui, si je peux. Oui, mais ouais, en plus, avec la scéno, tout est installé. Il y a du cœur.
C'est ça.
On fait avec les moyens du bord, mais on fait quand même.
Mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue malgré tout. Là, on est lancé. C'est pour ça qu'on est là, avec un peu de poésie, d'ailleurs. Si on peut passer... à la poésie en transition, sans transition, je sais pas comment ça se passe.
Sans transition.
D'ailleurs, il va y avoir des lectures aussi. Il y aura de la musique, il y aura des lectures, des textes, il y aura des présentations avec des masques.
Il y aura, il y aura de l'accueil masqué, il va y avoir des lectures de textes, il va y avoir des textes dits et sus, du coup. Il va y avoir, du coup, de la musique, avec des chansons-musique. Et il me semble que c'est tout. Et forcément, un petit coup à boire.
Peut-être.
Parce que c'est important.
Un spectacle de magie, peut-être, mais ce n'est pas sûr.
Non, c'est vraiment pas sûr. Mais la prochaine fois.
Oh non, on reparle. Comment il s'appelle ? Philippe. Philippe.
Le baron.
On reparlera avec Philippe. Ok, d'accord.
Merci, gros big up parce que au final,
gros big up à Philippe,
il donne l'énergie. C'est quelqu'un qui donne l'énergie, qui regarde
je sais pas
la jeunesse
son
dans les
scène. Vous avez son
le baron.
Le baron, c'est ça. On va, si on peut lui faire un petit peu de pub au passage.
Je vais vous dire ça tout de suite. C'est le baron. Philippe. Vous pouvez aller voir www.gentlemanipulateur.com.
Gentle manipulateur. Gentle manipulateur.
Gentle manipulateur.
Quel homme.
C'est pas mal.
Gentle manipulateur. Complètement nul.
Voilà.
Non, pas mal, pas mal du tout.
Merci. Merci
Rosé. Mais ne la refais plus.
Non, jamais. Alors, pourquoi Thelma, ton recueil se nomme-t-il Faux aphorismes ?
Elle en avait parlé, tu en avais déjà parlé. Oui. Mais ça va pas de mal de
c'est
le
c'est une histoire assez drôle, c'est parce qu'en fait, j'avais écrit du coup plein de recueils et j'avais appelé ça des faux aphorismes parce que j'adorais le mot, mais je n'avais jamais lu la signification du mot. Et quand j'ai vu la signification du mot, je me suis dit que ce n'était pas du tout des aphorismes. Alors du coup, j'ai appelé ça un faux aphorisme parce que j'aimais beaucoup le mot.
Qu'est-ce qu'est un aphorisme ?
Un aphorisme, c'est une petite phrase pour dire beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose de très concis et
elle s'en est
allée. Il y en a des aphorismes dans le recueil, d'accord. Mais c'est en très faible partie.
Oui, parce que j'ai cru en voir certains tout à l'heure, j'ai feuilleté ton recueil.
Et du coup, je me suis dit que ça serait drôle d'en mettre quelques-uns, donc j'en ai mis quelques-uns pour la blague. Voilà, ça me fait beaucoup rire.
Alors Thelma, est-ce que tu
veux nous en lire ?
Tiens, il y en a un qui te tient à cœur à lire à la radio aujourd'hui.
Ouais.
Le 16 novembre 2020.
En ce 16 novembre, Thelma...
J'arrive. Sur Radio Galère, sur
l'arrosé. Je vais vous lire mon premier.
Ton premier, c'est-à-dire ?
Le premier poème du recueil.
Ah.
Ok. Libérer la paix, c'est la liberté. La liberté, souvent, je l'ai regardée, ciel sans nuages, ciel d'orage. Goutte d'eau dans la fureur du monde, la pluie danse sur les mots. N'essayez pas de coudre des feuilles de ficus sur ma bouche, une autre est toujours prête à parler. Bouche bavarde, bavarde de rien et de tout. Dans le silence, elles remplissent l'air de ce clapotis, touche tapant l'encre noire bordée de rouge, c'est le sang de la permission. Pas besoin d'accord, je suis toujours d'accord avec moi-même. Dans la raison ou le déni, je fais confiance à mon envie. Je ne veux pas commencer par énoncer les raisons qui font que je ne devrais pas être là à écrire, car si je ne devrais pas écrire, encore moins, lecteur, tu ne devrais me lire.
Mmh. C'est pas mal ça. Ça me fait penser à la phase de Médine. Le rappeur Médine, il fait une phase, il dit « J'ai lu qu'écrire causait la mort, alors j'ai donc décidé d'arrêter de lire.
» C'est pas mal du tout. Ouais. Putain, c'est terrible.
C'est Médine, un petit écrivain français.
J'aime bien. C'est vrai que en le feuilletant tout à l'heure, en écoutant là, avec ta voix, j'ai l'impression qu'il y a le thème quand même de la résilience.
Un petit peu.
Même si tu es attaqué, tiens, coup ma bouche, il y en a une autre.
Ouais.
T'inquiète, j'aurai faim.
Je continuerai jusqu'au bout. Ouais, ça parle d'écriture. Ça parle beaucoup d'écriture et d'amour et de rencontres avec les autres et des différences, je crois.
Tu écris depuis longtemps, Thelma, ou pas ?
Oui.
Ouais. T'as toujours été dans la poésie ou pas ? Absolument pas.
Non, avant j'aimais bien écrire des petites nouvelles ou des histoires. Comment dire, où je parlais beaucoup de moi, mais je transmettais ça sur un autre personnage. Ça me permettait un peu de sortir mes démons, tu vois.
Et tu as écrit une pièce aussi, me semble-t-il.
Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre.
Oui, dites-le si modestement, elle est finie, mais bon.
Elle n'est pas finie.
Elle est pas ah oui, elle n'est pas finie.
Ah non.
Ah oh, pardon.
Ah oui. Non, elle n'est pas du tout finie, mais.
À la base, tu es venu sur le poème par envie de chercher autre chose ou par c'est vraiment à force d'écrire ton expérience.
En fait, ce qui est cool avec la poésie en prose, en tout cas, ce que j'écris, c'est que tu écris ce qui vient et ça me permet de vraiment jouer avec les mots et c'est ce que j'aime, assonance, allitération. Et du coup, c'est une manière pour moi d'aller vite dans l'écrit, d'avoir quelque chose de concret à la fin et de pas attendre. Tu as une pièce de théâtre, il y a un début, il y a une fin, il faut vraiment... je sais pas, là j'écris une page et ça me plaît, ça me parle.
Comment tu arrives à raconter une histoire, donc avec des péripéties, sans décrire d'action, juste avec des paroles ?
Les paroles sont une action, non ?
Ouais, non, mais juste des gens qui se parlent entre eux, quoi.
C'est-à-dire ?
Et comment tu fais pour qu'on voit toute l'ampleur de l'environnement et du personnage, chose que nous allons peut-être pouvoir expérimenter avec le livre que va nous lire Claude, alors qu'il n'y a absolument aucune description de l'environnement et des personnages, voire même physiquement, mais peut-être aucune, ni mentalement.
Je pense que les gens se font eux-mêmes leur...
Oui, mais toi, en tant qu'écrivain ?
Moi ?
Comment tu fais ?
Dans un poème ?
Moi, c'est... Non. Dans une pièce de théâtre. Comment tu fais pour écrire un truc dramatique,
je mets des...
avec que des dialogues, enfin, avec la chose même qui est une pièce de théâtre.
L'action, elle est dans les didascalies, je pose les situations.
Tu en mets beaucoup ?
Pas beaucoup. Okay. Je mets beaucoup de blancs, par contre. Les blancs sont tous écrits. J'écris beaucoup d'absurdes en pièces de théâtre. Et du coup, là, par exemple, ça se passe dans un bar, donc c'est assez simple. La situation, elle est posée. C'est deux mecs qui sont bourrés et qui essaient de se souvenir de ce qu'ils ont fait la veille. ça c'est ma pièce. Okay. Donc du coup l'action elle est posée et après les gens ils s'identifient quelque part, et soit ils ont déjà vu des gens comme ça, soit ils l'ont été eux-mêmes, soit, et puis ils se créent leur propre action, je pense, au final ils se,
okay, tu vois, ils se projettent. Moi je trouve ça compliqué de mettre dans les mots tout ce que tu veux que les gens comprennent sans rien omettre toi-même, toi, quand tu l'écris. Genre.
Mais je pense que tu écris, s'il boit un café, tu écris en didascalie, il boit un café et le texte reprend. C'est ça qui est un peu... Je sais pas, c'est comme écrire un scénario au final de film. Ça, pour moi, c'est très compliqué. D'écrire d'abord dans quelle pièce c'est. Est-ce que je suis sûre que c'est cette pièce, intérieur, jour, nuit, non. Je sais pas.
Ok. Ça, c'est un scénario intérieur, jour, nuit. C'est pas le... C'est déjà le scénario, tu mets déjà comme ça.
Ouais.
Tu l'écris déjà dans ce sens-là.
Ouais.
Ok, c'est pas juste l'histoire.
Scénario, c'est direct, tac, 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 je crois. Hein.
C'est les scènes.
Je dis pas de bêtises.
Dans ton recueil, est-ce que tu as des textes, tous tes textes ont été retravaillés, ou est-ce que par exemple, tu en as un que tu as écrit et que tu as mis dans ton recueil?
Oui.
Brut.
Oui, plusieurs.
D'accord. Mmh. Comment ça se passe quand tu au-delà de penser au recueil, quand tu l'as écrit plutôt. Mmh.
Quand il l'a écrit. Ouais.
Quand tu l'as écrit, comment t'approches l'écriture en fait? Qu'est-ce que tu espères au-delà d'espérer en fait? Plus, qu'est-ce qui te met au point de dire je vais en faire un recueil? Qu'est-ce qui mélange ces différents textes? Pourquoi ces textes travaillés? En fait, quelle est ta mécanique d'écriture? Pas simplement d'écriture en soi, ouais, mais ouais, quand on arrive à un recueil comme ça. Parce que je sais que tu as écrit, enfin, sans savoir moi personnellement, mais on se doute tous en général qu'un écrivain, avant de publier quoi que ce soit, il a déjà écrit un sacré paquet de lignes, beaucoup sont restés dans ces tiroirs. Donc toi, quelle est ta mécanique, par exemple, pour
valider un écrit quelque part?
Pour valider et surtout pour relier tout ça, parce que je sais que c'est différent, même si on peut retrouver des traits, des thèmes, on va dire, il y a quand même vachement de... C'est délié, beaucoup de textes sont déliés les uns des autres. Et comment tu... Ce recueil-là en particulier, quelles étaient les choses qui t'ont entraîné, qui t'ont fait garder tel texte ou pas?
Enfin, c'était très compliqué parce que je voulais vraiment à la base que chaque texte soit indépendant les uns des autres. Et en fait, en essayant de les rassembler un peu comme ça au pif, je me suis rendu compte que c'était pas possible et qu'il y avait une espèce de ligne directrice. Et en fait, et que un poème en enchaînait un autre et que je pouvais faire comme ça des concordances. Donc j'ai essayé de les trouver, c'était pas du tout facile. Et en faisant ces concordances, il y en a beaucoup qui sont sortis du recueil, qui allaient plus du tout. Et ce que je voulais vraiment, ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment écrit... À la base, il y avait beaucoup de « je » et de « tu », et ça m'énervait profondément, parce que je voulais essayer de les gommer, pour qu'il n'y ait plus vraiment de pronoms. Sur certains textes, j'en ai gardé des pronoms. Mais bref, je voulais vraiment que ce soit un recueil que tu aurais pu écrire, en fait, ou que tu le lises et que tu dises « Ok, on ne parle pas de Thelma, mais on parle peut-être de moi, ou d'un copain, ou de ma famille. » Voilà, c'était ce que je voulais vraiment pour ce recueil. Je ne sais pas si je l'ai réussi, mais en tout cas, c'était l'intention. Et du coup, voilà, j'ai retravaillé beaucoup de textes en enlevant les pronoms, en essayant de gommer. Et il y en a qui étaient juste simples et qui n'avaient pas besoin, en fait, de retravail. Donc, ils étaient dedans comme ça. Ça répond à la question.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Clairement.
Okay. Est-ce que j'en lirai d'autres?
Oui, c'est exactement ce que j'avais demandé.
Si vous voulez, c'est parti.
Alors, ils ne sont pas titrés, par contre.
Non, ils ne sont pas du tout titrés.
Entitled.
C'est intéressant, ça aussi.
Un être a deux facettes. Ces deux-là ne se rencontrent jamais. Ils se connaissent, mais ne se rencontrent jamais. La solitude comme refuge, plongeant dans le noir, l'obscurité, toute personne s'y perdant. La sociabilité comme refuge, plongeant dans l'oubli, l'inconscience, toute personne s'y perdant. Un être a deux facettes. Essayer de les apprivoiser, croire que c'est fait, parfois puis se surprendre lors d'actions, de pensées. Tu parles et je t'écoute. M'as-tu vraiment écouté, toi? J'entends. J'entends le bruit du vent entre tes mots, le rire des enfants qui se perd en écho. J'entends beaucoup de choses, mais parfois j'ai du mal à entendre le bruit de mon cœur. Piu piu, piu, piu piu. Si mon cœur faisait du bruit, si j'entendais son son, je pense que ce serait celui-là. Piu piu, 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 piu. Comme le bruit des coups de feu dans les tontons flingueurs. Un son drôle, inattendu, un son rieur, léger, malheureux. Ne vous méprenez pas. Mon cœur n'est pas malheureux, je le saurai, sinon je l'entendrai. Sinon, piu piu, 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 piu. L'oiseau de mon cœur ne demande qu'à s'envoler dans un tir de pistolet, colibri, 2 mm, minuscule cartouche à percussion centrale. Envole-toi.
Ouais, c'est vrai que...
une énergie, c'est trop drôle. Le colibri, on dirait. Comme tu viens de le dire à la fin.
Une flèche plantée, le texte. Ouais. Mmh. Moi, j'en veux d'autres.
C'est ok.
Eh ben, tu n'en auras pas.
Ah non,
c'est terminé.
Mais non. Ok, ça c'est un des tout premiers textes que j'ai écrit il y a des années et des années en arrière. Trouve ça très drôle qu'il se retrouve dans ce recueil. Voilà.
Ah, comme ça, il a sauté. Comme ça,
il a sauté, il était dedans, je l'ai lu, je me suis dit ok, cool. Et voilà.
Je parlais de mécanisme, tu vois, en fait, pas du tout.
C'est les textes sont les mécaniques propres.
Ilan, aujourd'hui, est en forme.
En grande forme.
Pas prête pour grandir, pas prête à choisir, savais pas. Moi, pas moi. Savais rien. Peut-être on m'avait dit, sûrement que j'ai pas écouté. En tout cas, je savais pas. Moi, pas moi. J'avais envie, mais je savais pas qu'est-ce qui me faisait envie, mais j'y allais. J'attendais beaucoup pour y être, j'étais pressée, maman disait. Trop vite, tout tu veux, qu'elle disait. J'écoutais pas. Moi, pas moi. Je crois que maintenant je suis dedans. Je me demande si j'y suis, mais pas sûr, comme je sais pas trop. Peut-être qu'on m'a dit, sûrement que j'ai pas écouté. Aucun souvenir, alors je me dis, je suis dedans. Moi, oui, moi. Et il n'y a plus cette bouche qui disait avant quand j'étais pressée. Aujourd'hui, elle est plus là, pas là, elle est. Mais je voudrais bien l'écouter, moi, oui, moi, pour peut-être comprendre comment prendre tout ça. Tadam. Voilà.
C'est rapide, mais c'est des points.
Ouais.
Lis-nous ce petit, là, que je vois.
Ah, super. Je crache à la gueule de l'ignorance, de l'indifférence et de l'oubli. Aphorisme.
Mais aphorisme, c'est pas que ça veut dire beaucoup plus que ce que ça laisse dire, c'est ça? Que ce que ça laisse entendre?
Il me semble. Ouais.
Alors, il me semble aussi, oui.
Bout pour dire de grandes choses.
L'inverse d'un. Oui, oui.
Par exemple, aux dernières élections présidentielles, j'ai dit ah, c'est con ça. C'est un aphorisme.
Une petite chose pour en dire beaucoup.
Ça peut, ouais.
Plein de moments dans ma vie où je fais des aphorismes.
On peut peut-être garder tes poèmes comme ouais. des interludes poétiques entre textes.
C'est super fluide, ouais. Thomas, ce que tu as écrit vraiment.
Hein. Puis là, lu par toi, ça se voit que...
Et je ne te dis pas d'ami à ami, vraiment, c'est parce que tu en parlais. En plus, on pourrait parler de ça peut-être dans une autre émission aussi. Tu me disais par rapport à ton regard aux autres, tu savais pas, il y a deux semaines de ça, quand tu avais présenté tes textes ici et tout, c'est super intéressant aussi dans la construction, pas d'un artiste, mais de quelqu'un qui veut créer comme ça, quelque chose d'artistique aussi, de se dire que ça peut le freiner ou quoi, alors que pour toi, à la base, quand tu l'écris, c'est fondamentalement, enfin c'est nécessaire. Je veux dire, si tu l'as écrit, je t'ai déjà vu aussi prendre une feuille et écrire comme ça, tu vas te mettre dans un état où c'est un besoin, c'est quelque chose d'important.
Mais il y a des gens qui aimeraient pas le dire peut-être. Enfin, elle, c'est pas son cas, mais...
Ouais. Peut-être, mais tu l'as découvert en le faisant, alors que t'en avais un a priori là-dessus, et là, avant de rentrer dans le studio, tu m'as dit, ouais, je suis contente, parce que... On m'a dit, oui, je le dis tellement, on m'a dit que... Je sais plus exactement ce que tu m'as dit, mais tu m'as dit par rapport au fait que, justement, c'était... ta voix était mélodieuse, ou il y avait quelque chose qui passait dans le fluide, dans le rythme, ou quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que tu dégages vraiment quelque chose quand... Donc, même à travers l'écriture, même pas dans comment tu le racontes, parce que quand tu le racontes, je pense que vu que tu l'as écrit, c'est une évidence, tu vois. Mais il y a un truc dans cette énergie, là, moi, qui me happe de suite. J'ai envie de savoir où tu cours, tu vois ce que je veux dire, comme la flèche, tu vois. Bref, mais j'ai juste besoin de dire ça, parce que ça m'a donné le smile. Ouais, ça m'a vraiment donné le smile, tu vois. Ouais. Donc bon, on va le garder en interlude, alors. Mais on va passer sur un autre, tu veux commencer à lire, Ilan ?
Pas forcément.
Alors, moi, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un livre qui peut se couper un peu comme Thelma, puisqu'en fait, c'est un livre qui s'appelle La Horde du Contrevent, que tu dois lire absolument, Ilan, hein, tu te régaleras.
Alors, il faut savoir que chaque fois qu'il dit Ilan, il parle à vous, auditeurs, auditrices.
Exactement.
C'est ça, c'est un peu la même chose. Il faut que tu le lises absolument,
Ilan. Ah, vous ne savez pas que vous vous appelez Ilan.
Exactement. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde.
C'est tout. Et
La Horde du Contrevent de exactement, Alain Damasio.
Damasio, exactement, monsieur.
Qui est cet
monsieur
homme partout.
Alors, cet homme, c'est un. Pas du tout un Marseillais, j'allais dire un Marseillais, mais pas du tout. Il vit, par contre, maintenant au Calanque. Mais on s'en fiche un peu, puisque ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. Il a écrit trois livres.
C'est intéressant, parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans l'air marin, le vent et tout.
Peut-être à Marseille, mais tu le sais, frérot. Tu le sais.
Non, mais puis on peut pas en parler à ce livre.
Bah oui. Alors, je sais pas, justement, il faudrait relier quand est-ce qu'il a écrit. Tant il a écrit à Marseille, celui-ci, c'est en 2004, je crois.
En 2004. Est-ce qu'il habite
Je sais pas, je suis pas sûr.
Alors, de quoi parle-t-il ?
En tout cas, il a écrit celui-ci, il en a écrit trois. Il en a écrit d'autres, mais en termes de romans, il en a écrit trois. Il a écrit La Zone du Dehors, qui est ressorti là en 2019, je crois, l'année dernière, Les Furtifs. Furtifs.
Ouais. Et alors, c'est de la science-fiction, je précise.
C'est de la science-fiction, exactement. Pour une fois, moi qui n'ai plus l'habitude. J'étais passionné par ça. J'ai perdu un peu l'habitude d'aller m'informer ou me à aller lire un peu du fantastique. Et c'est des trucs qui restent de minuit ou pas. Moi, ça m'était parti et j'ai redécouvert le plaisir que j'avais à travers ce livre à découvrir du fantastique et de la science-fiction. Bah, là, c'est du fantastique. Ce livre est très particulier puisqu'il est découpé. Déjà, la première page, c'est la page... Je vais vous spoiler quelque chose.
C'est comme au théâtre, justement.
C'est comme au théâtre. C'est la page 700. Et au lieu de faire... Eh oui, c'est la page 700, pas la page 1. Et ça descend.
Ah oui, d'accord. Non, je vais pas dire ça, je vais dire les personnages.
Et je ne vous dirai rien parce que là, je suis dans ma deuxième lecture. Ce livre se lit et se relit, c'est ça qui est intéressant. Et puisqu'on est sur la poésie, il y a énormément de poésie dans ce livre. Puisqu'en fait, pour vous faire un résumé rapide, est-ce que je peux ou pas ?
Oui.
Ça dépend.
Très rapide.
Non, mais résumé, ça veut dire que tu racontes tout ?
Non, je veux juste... situer la chose.
Oui, voilà, oui.
On entend ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est dans un monde unilatéral, un aval, un amont, c'est-à-dire que les deux côtés, donc ça va que dans un sens, enfin, à double sens, mais c'est comme une plateforme, une bande, on va dire, recouvert sur le côté de mer glacée ou inatteignable en tout cas.
Et c'est impraticable, complètement.
Impraticable, donc ça travaille, si on veut avancer, c'est d'aval en amont. Et donc.
C'est une sorte de fleuve.
Exactement. Terrestre, un fleuve terrestre, je ne sais pas ce que c'est. Et de l'amont frappe un vent continu, qui a, vous le découvrirez, je ne vous en dirai pas trop, mais c'est un vent qui a différentes formes, mais c'est un vent qui frappe en continu. Et tout le travail de Damasio, pour moi, repose sur ça, sur le fait qu'il y a, il y a différentes personnes dans différentes castes de la société qui essayent de grimper jusque là-haut pour atteindre, pour savoir ce qui se passe, d'où vient le vent, l'origine du vent, il en parle beaucoup, et c'est très intéressant.
Ah, la société ne sait pas d'où vient ce vent ?
Non, absolument pas. Ils le cherchent justement, et par différents moyens. Il y en a qui le cherchent par des, comment on dit, de la technologie avec les, j'ai plus leur nom, mais avec des technologies très développées qui leur permettent d'aller très vite, de lutter contre le vent dans des grosses trucs de ferraille, des navires volants, des trucs comme ça. Et il y en a d'autres aussi, il y a les Crones et il y a la Horde. Alors la Horde, et je ne vais pas dire plus loin, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ce sont des gens qui remontent l'aval, en amont, pardon, à pied. Face à des vents qui atteignent des... Enfin, voilà, vous imaginez bien que c'est du fantastique, donc ça a des certaines... Bref, je vous en dirai pas plus. Je vais vous lire un petit passage. C'est découpé d'une certaine manière, et cette manière est la suivante. Chaque chose qui se passe dans ce roman est montrée, il le fait découvrir Damasio par un personnage. C'est-à-dire que vous avez des symboles au début du livre, et chaque symbole est un personnage. À chaque fois qu'il y a un texte, il y a un symbole devant. Donc il peut durer plus ou moins longtemps. Des fois, ils ont une interaction, des fois, ils parlent.
C'est forcément à la première personne.
C'est forcément à la première personne, du moins, c'est forcément du point de vue. Justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que des fois, ils ne parlent pas forcément en première personne.
Non, voilà, attends,
c'est forcément du point de vue de la personne dont il y a le signe.
Point de vue interne.
Voilà. Il y a 23 ordiers, les appelle les ordiers.
D'accord.
Avec chacun un poste très particulier. Donc, je vais commencer à vous lire la première page avec. La première
foot,
apparition
en fait.
Du scribe, c'est une équipe de foot, totalement 23 il a. Attends, mais tu as raison en plus.
Ben oui, 22 le goal. Mais il y a 2 goals. Il y a 3 goals.
Super. Okay. Alors le scribe, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Sauve. À la cinquième salve. L'onde de choc fractura le fémur d'enceinte et le vent sabla cru le village à travers les jointures béantes du granit. Sous mon casque, le son atroce du roc poncé perce, mes dents vibrent. Je plie contre Pietro, des aiguilles de quartz crissent sous son masque de contre. À terre, dans la ruelle qui nous couvre, deux vieillards tardifs qui clouaient un volet ont été criblés. Plus loin au carrefour, je cherche en vain la poignée de mômes qui crânaient, front nu, braillant des défis que personne, pas même nous, ne peut à cette puissance et sous cette viscosité d'air relever. Toute la horde est à présent plaquée contre la face ouest d'une bâtisse qui nous a paru un peu moins pitoyablement jointoyée que les autres, à attendre le ressac, la courte pause dans l'accélération, qui nous permettra de contrer dans le dédale des rues jusqu'aux fortifications, puis au-delà, si l'on sort. Si l'on se décide, finalement, à sortir. Des dômes les plus hauts, du métal tordu crie dans les accalmies. Une éolienne grince, hoquette. Elle repart, se bloque. Les pales crépitent sous la grenaille. Une rafale encore. Et le bruit se fond dans le rugissement saturé. À ma gauche, un chat oblong se cale, ébouriffé, dans une encoignure trop étroite pour lui, et vole les jouets cassés, des calebasses, des bancs qui raclent et des tuiles de terre cuites, attachées, arrachées et jetées comme à la main à 3 mètres de nous. Il n'y a plus de doute maintenant, pour personne. Le Furvent arrive. Il sera là dans l'heure. Il s'annonce, comme toujours, en quintet. Et il ne laissera rien debout ici, dans ce bled qui ne fut figuré sur aucun carnet de contre. Donc voilà, je vais vous en présenter d'autres après. Peut-être qu'on peut faire aussi un interlude.
Moi, je crois que je continue quand même.
Ouais, moi aussi.
Ouais, ouais. Alors, donc là, c'était Sauve le Scribe. Vous voyez, voilà, lui, il doit décrire le vent. Lui, il doit, sur des carnets, recenser le vent et le décrire. Je vais vous parler maintenant, ça va te parler, puisque c'est le troubadour de la bande, et c'est Caracol. Amis du large, encore et encore, bonjour. Jeunes glyphes des sables, crones et antécrones, qui s'annonceront sans politesse. Je vous attends du pied souple. Accueillons-nous. À ce Furvent, ce vieux père siffleur, j'adore en pressentir la venue ailée. Brouillonne, certes, mais quoique. Je ne me suis pas présenté, excusez l'instant qui porte au lyricisme, nous sommes bonjour, vous êtes Caracol, ou suis-je? Ou oui, lui-même, troubadour donc, et conteur, pour le compte de la 34e horde du contrevent, mes seigneurs, menée de haute main par son traceur, l'aigneux et percute souffle Golgoth, 9e du nom. Épaulé, il faut le préciser, par notre combattant protecteur, un trancheur à l'hélice, j'ai nommé Ergue Macaon, et à sa droite, par le pilier des piliers, une poutre à 2 pattes, Phiroste de Torog. Mesdames, quand vous serez heureuses d'avoir devant vous, quand mes pères, que vous serez heureuses d'avoir devant vous, quand mes pères et mères vous cracheront de la farine par les bronches dans moins d'une heure. Bien. Et qui suit ces 3 animaux? Qui égaye et élève? Pietro, le prince, un Delaroca, de la plus noble des extractions, et son pendant, fils de gueux, une lame debout, toujours à sa gauche. Mon pote, sauve le profond. Scribe, dit-on, mais pour moi, philosophe. Entre eux, gît et s'agite notre géomètre Talveig, amoureux des pierres. Et derrière eux, est-ce trop rapide, dois-je ralentir? Derrière ces 6 merveilles suscitées qu'on nomme le fer, se trouve le pack pour sûr, en 3 rangs compacts, aérés d'oiseliers inconciliables, d'une fine cueilleuse et d'une feuleuse, d'un éclaireur obscur et de 2 artisans, 2 branleurs. Salut l'arco. Et puis quiconque, les 3 crocs dans la traîne, daignez suivre tirant les charges. Combien en tout? 23. Sans les autours ni les faucons, notez bien. Tous d'équerre, debout, d'aplomb. Ma foi, oui, mais vif encore? Je ne sais.
Ah oui, lui nous fait une petite présentation de tous les autres un petit peu.
Ouais, alors ça c'est voilà, c'est les premières paroles. Alors je m'excuse auprès d'Amazio parce que j'aurais dû travailler son texte. Ça m'aurait intéressé, tu vois, de le présenter vraiment avec chaque personnage. Mais j'avais vraiment envie de présenter ça, donc je l'ai fait au dernier moment. Mais là vous avez, ouais, du coup, voilà, lui c'est vraiment le conteur de la bande et en même temps c'est pas l'écrivain, c'est vraiment celui qui va... l'orateur, on va dire, plus que...
Ça va être une sorte de palette de l'humanité, cette horde.
C'est très intéressant que tu parles de ça et je n'ai pas envie d'en dire trop, donc je ne répondrai pas. Mais oui, ça, oui, oui, bah, tu t'en doutes bien. S'il y a un travail autour du vent, la notion de eux, ils sont.
Bah, je m'en doute bien, je ne sais pas, mais Damajo, le connaissant, je pense qu'il ne fait pas que de la science-fiction pure et dure, tu vois. C'est, derrière, il y a toujours quelque chose.
Alors, c'est exactement pour ça que je vous le lis, honnêtement. C'est parce que, déjà, on parle de poésie depuis tout à l'heure. La poésie a différentes formes. Moi, c'est très personnel. Je trouve que ça, c'est un bijou de poésie, vraiment. Parce que justement, il touche à 2 choses très particulières, à la fois du fantastique pur et dur, on est dans un monde complètement fantastique, ou indéniablement, et en même temps, il touche à des choses très concrètes, puisque dans ce monde fantastique, je crois que c'est pas fantastique, c'est merveilleux exactement le nom, c'est-à-dire une société qui fonctionne comme la nôtre, mais qui est mise dans un monde fantastique, ça s'appelle le merveilleux, comme le Seigneur des Anneaux ou d'autres choses comme ça. Et donc, il garde une part très concrète dans tout ce qu'il fait. Et donc, même s'il se retrouve dans des envolées fantastiques entre les personnages et leurs différentes manières de faire qui peuvent paraître surréalistes ou quoi, vous avez fait des mouvements, vous avez perdu complètement là. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'ai bougé mon micro.
On se retrouve voilà, quand même à aborder ces 2 sujets où on est voilà, complètement dans du concret. Et puis c'est très.
Je pense que tu nous as lu là, c'est extrêmement poétique le début, la description.
J'ai juste une petite question, il modifie des mots. Je veux dire, il va prendre alors, philosophe, c'est
quand,
ça, philosophe.
Quand tu parles, Thelma, tu as des mots que seul toi ou tes amis proches peuvent comprendre. Tu vois, et ben, c'est extrêmement intéressant puisqu'il garde ce vocabulaire du parler, à proprement parler. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on parle, il parle du prince qui s'appelle, ça va me revenir, c'est pas grave, De La Rocca, mais je sais plus son, j'ai plus son prénom, qui est quand même quelqu'un de, voilà, d'eau placée quand tu reviens en aval, de, dans la ville en aval. Et tout le long, peu importe la condition, il a un vocabulaire soutenu et il se retrouve à, même quand il est très en colère, à un moment où il insulte quelqu'un, il ne l'insulte pas. Vous voyez, c'est très, parce que du coup, il a plein de mots, chacun a des mots qu'on ne comprend pas en fait, mais qu'on sous-entend.
Oui.
Et c'est très joli de trouver un parler aussi écrit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on est vraiment, vraiment dans ces hommes, comme s'il nous racontait brut pour point ce qui se passe à l'instant. Ce livre, ça lui a mis quand même, ça
chaque
lui,
personnage 12
ans,
parler,
je crois,
quoi.
À l'écrire, il me semble. Il a mis 10 ou 12 ans à l'écrire. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve immensément et qu'on aime retrouver dans n'importe quel livre. Ce côté,
c'est quelque chose, hein.
Ouais, cette vérité un peu qui touche, alors qu'on est, voilà, on prend un livre et c'est de la fiction combattante. Mais c'est très intéressant.
Et en fait, il a créé un argot.
Il a créé un argot. Alors, tu sais quoi, je vais vous lire. Je peux vous lire un autre passage?
Ouais.
Alors, je vais vous lire. C'est pas celui que je vous espérais vous lire. Surtout que je vais le faire très mal puisqu'il est, il serait, je pense, à mettre en scène super
mais
intéressant.
Non.
Non, non, mais façon de parler. Je ne vais pas vous dire dans quelle situation elle est, donc je vais vous laisser découvrir vraiment le vocabulaire à proprement parler. La situation est intéressante en plus, mais je ne vais rien dire pour ne pas vous
spoiler.
Vous spoiler.
Merci.
Alors, là, on est avec Ergue Macaon, combattant protecteur. Si vous n'avez pas compris son poste, c'est une bête, d'accord. Je vous laisse découvrir. Joue la fatigue, macaque. Laisse-le venir plus près. Encore plus près. J'ai les mines calées dans mon crâne, la surface entière. Foudre se relâche quand domine. Laisse attaquer foudre, macaque, jusqu'à trop sûr de lui, trop concentré sur frappe fatale qui doit tuer toi qui l'oublie, juste une fois, de varier 50e trajectoire d'esquive. J'entends la voix de Terre Jerka. J'entends son rire. Je revois ce combat. J'avais 13 ans. Toujours un moment où toi savoir répéter, répéter, répéter. Même tir, macaque. Toi plus varié. Faire entrer lui dans routine tienne. Encore, encore, lui appauvrir, trajectoire esquive, pas infinie. À force, toi vas reconnaître une suffit, une. Et là, tu frappes, ergo, et c'est fini. Je le revois face à cette oblique qui m'impressionnait tant, un quart de foudre. Il était comme ici, en l'air, inchoppable. Ce jeune crétin l'allumait à l'arbalète, et Terjerka, déjà vieux, sans armure et sans vitesse. Qui paraît avec une planche, qui me parlait, qui me montrait à un moment anodin l'hélice de mon maître, partit, un jet tranquille, le quart de foudre s'affala dans la terre. Il était mort. Terjerka s'excusa devant moi. Vieillesse, macaque, rater la hanche, plexus jamais bon. Vais d'abord le clouer au sol, lui couper ses ailes, bouge-toi, macaque, empêche-le de fuster latéral, cadre le droit-gauche d'un double jet carré, puis force-le à plonger sur la troisième hélice, il se protégera lui, mais pas sa voile.
Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? quelle est la situation?
Alors, c'est pendant un combat. Il est en train de. On vient dans sa pensée. Depuis le début, on a le regard des autres ordiers, trois autres ordiers.
Mais un combat
sont cachés.
Entre qui et qui?
Alors, je ne veux pas vous en dire beaucoup trop, mais c'est un combat entre un autre combattant protecteur et lui, en fait. Enfin, ce n'est pas tout à fait un combattant protecteur, mais c'est
de
du
la horde.
Non, justement.
Non, voilà.
C'est des gens qui sont formés pareil, sauf que celui qui l'affronte n'est pas allé dans une horde. Il n'y a qu'une seule horde à la fois. Là, c'est la 34e horde. Et à chaque fois qu'une horde meurt, on en revoit une, mais pas forcément de suite. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc là, c'est quelqu'un du même gabarit que lui, même plus fort, qu'il est en train de combattre. Depuis le début, on est en train d'analyser par les regards des autres tours qui sont cachés parce qu'ils n'ont pas du tout le niveau d'affronter cet homme-là. Et là, c'est le seul passage, c'est pour ça que je vous le lis, sur 10 pages, 15 pages de combat, c'est le seul passage où on entend parler, et d'ailleurs, c'est la seule fois de tout le livre jusque-là où on entend parler le combattant protecteur. Donc c'est intéressant
c'est
de voir...
C'est lui qui dit macaque.
C'est lui qui dit macaque, mais il se parle à lui tout seul.
Ah, okay.
Macaque, tu vas bouger.
Ah, il se parle à lui.
Et il est dans un... Ouais. Et il est dans un... Voilà, donc ça, c'est... Et il parle tout le temps comme ça.
Sinon, on ne l'entend pas parler. Mais il y a des passages où il est en narrateur ou pas?
Et c'est le premier. À des moments où il a des répliques.
En point de vue, tu voulais dire.
Oui, en point de vue narrateur.
Il faut être clair. Oui, il faut être clair par rapport à ça. C'est que il y a des points de vue de personnages avec leurs items, mais dans chaque point de vue de personnage, le personnage regarde d'autres personnages parler.
Ah oui. Bien sûr.
Donc ça fait des choses où à des moments, comme me disait la personne Benjamin, hein, qui m'a donné ce livre, il y a des moments. Hein, big up au passage, ouais, c'est pour ça que je voulais faire un big up, mais je sais pas pourquoi je n'ai pas osé. Et oui, comme il me disait au début, il y a vraiment des moments où tu sais qui parle. T'as plus besoin de tirer. Il y a des moments où tu regardes plus, en fait. Au bout d'un moment, t'as compris. Enfin, ça, ouais, se ressent, quoi. Parce que déjà,
c'est tellement bien écrit.
Plus le temps passe, plus c'est précis. Exactement. Plus le personnage est très précis, plus limite, à un bout d'un moment, il pourrait le lever dans le roman, quoi. Et c'est incroyable, comme quand tu le lis, il y a des romans où on retrouve dans des dialogues des. Tu sais, des pop, 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 ça passe d'un côté à l'autre. Et là, c'est...
Ça pourrait être un manga.
Autre chose. Et ouais. Mais moi, j'en parlerai à Damasio. Je lui enverrai un mail un jour. Si j'avais les talents d'un cinéaste, mon pote, je le ferais immédiatement. Ouais. Mais vraiment.
Mais c'est pas une histoire de talent, Claude. Hein, parce que pour faire un truc comme ça, c'est une histoire de fric.
Les sous. Voilà, j'allais dire, je sais pas pourquoi j'ai parlé de talent. Je pensais les sous. J'aurais...
Les talents d'or.
Les talents d'or, ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Parce que c'est vraiment... Ça se rapprocherait d'un travail comme Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Mais il y a un côté, comme je te dis. Regarde, dans Le Seigneur des Anneaux, on s'y identifie pas forcément. C'est très particulier comme travail. Mais on peut ressentir ce qui peut se dégager comme volonté de morale derrière.
Et encore, Le Seigneur des Anneaux, il y a un côté épique que là, il pourrait y avoir vachement plus de scènes intéressantes sur nous, justement. Sur l'âme humaine, avec ces mecs.
Comme je disais, concret.
Je suis pas obligé de faire un si énorme film
de ça. C'est beaucoup de noirceur.
Ouais, j'imagine.
Contrairement, justement, c'est ça qui les dégage un peu. En fait, c'est pas tant noir, c'est beaucoup plus concret. Et dans nos cerveaux, quand on va le découvrir, ça nous donne comme quelque chose d'atteignable. Et du coup, tu voilà, chaque personne
paraît très réelle. Conscience de la chose aussi.
Ouais. Et c'est pas contrairement à bon, on se plonge dans une fiction, il nous paraît réel. Non, c'est le deuxième degré de la fiction qui nous paraît très réel. Donc on en vient des fois à parler tout seul, bon, ça nous arrive pour d'autres livres, mais à parler en son nom et à dire, mais j'en suis où, tu cherches, et tu dis, mais pourquoi lui il dit ça, c'est pas possible, et tu reviens et tu. Parce que justement, voilà, c'est. Ouais, tu vois vraiment les personnages évoluer.
Justement, il y a une vraie théâtralité entre les personnages.
Ouais. Donc, je vais pas prendre plus de temps que ça, et je suis content d'avoir parlé 20 minutes.
La question que je te disais tout à l'heure, c'est lui, il a écrit ça. Ouais. Et comment il fait si jamais il doit. Tu vois, là, cette difficulté de prendre. T'as toute l'histoire, et dans la vie, il y a que des dialogues.
Oui.
En soi. Oui. Bah, comment tu fais pour raconter cette histoire qu'avec les putains de dialogues, genre
Des fois,
je vois des pièces de théâtre, je me dis, mais on peut en faire un roman qui sera peut-être sûrement aussi bien, tu vois. Et c'est, je sais pas, même pas que Shakespeare, même Lars Noren, des fois, Lars Noren, je me dis, on peut en faire un roman.
Mais c'est pour ça que je m'intéressais au mécanisme qui te pousse à faire un recueil et pas autre chose, tu vois. Parce que justement, ça aussi, c'est la trace. Le résultat, c'est pas ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Donc voilà, c'est... Et là, voilà, là-dedans, on le sent que c'est 10 ans où il y a des moments où il a laissé le bouquin de côté et il est revenu, tu vois.
Il est allé voir le grand.
10 ans, quoi.
Et un moment, c'est plus de l'imaginaire.
Après, un auteur quand même qui fait des romans, Jono, il met 5-6 ans à chaque roman.
Bien sûr. Non, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une... Oui, voilà. Mais justement, pour une fois, c'est un roman très... je vais pas dire que nous ou quoi, pas du tout, mais c'est ça, c'est un travail de poésie quand même vachement intéressant. Donc je vous laisserai le découvrir. La Horde du contrevent de Alain Damasio. Peut-être vous relis un bout plus tard.
Moi, ça m'évoque plein de trucs symboliques et philosophiques, quoi. Un vent, on sait pas d'où il vient. Enfin, très existentiel, quoi. Les hommes face à l'existence, comprendre d'où on vient, on envoie une horde pour savoir. Puis ça parle, il y a un. J'imagine qu'il y a aussi des questions sur le progrès, sur les techniques, la société.
Tu l'as senti venir ?
Évidemment.
Oui, parce qu'avec ces différentes cases qui se... sans se rentrer dedans, mais qui sont, qui n'ont pas le même but au final. Bien qu'elles aient le même but, c'est ça qui est drôle, tu vois. Elles n'ont pas le même but. Puisque monter avec leur machine ne leur apporte pas la même connaissance, la synergie n'est pas la même que si tu
montes à pied. Les mecs qui sont à pied, Et donc aussi, sur le travail, sur le rôle dans une société. Ouais. Ouais, il peut questionner tout ce qu'il veut, en fait.
Et ça laisse vraiment un pan immense. On se pose des questions sur des choses. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas que du Camus, c'est pas que du... Tu vois ce que je veux dire ? Qui va te pousser dans ces retranchements-là, dans ces questions-là, dans ces remises en
question-là. Non, il y a aussi une grosse histoire.
Ouais, c'est très intéressant.
C'est un romancier.
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que Damasio qui fait ça. Mais moi, j'ai eu le plaisir de redécouvrir ça dans le fantastique, alors que ça fait longtemps que je n'en ai plus. Donc... J'en fais un petit peu une petite promotion pour un nouveau Marseillais.
Belle œuvre.
Donc, j'ai encore 2-3 passages à vous lire, mais je vais te laisser parler de Camus un peu, frérot.
Bon, moi, j'avais pris un bouquin de Camus. Ouais. J'avais rien prévu. Hein, mais...
Ah bah tiens, bah, rien prévu et parler de Camus, c'est beau ça.
Ouais, ça va bien ensemble, non?
Ouais.
Quand on n'a rien de prévu. Non, mais je sais pas, on avait dit lecture. C'est, bah, à chaque fois, je lis du Camus, ouais, mais en ce moment, je suis touché par Camus.
Beaucoup. En ce moment?
Bah, depuis 5 mois. Bah, c'est en ce moment pour moi.
Oui, mais je veux dire, il y a quand même un attachement particulier. Il y a un amour particulier.
Non, j'ai découvert Nos en juin, gros, avant Camus. Pour moi, c'était un mec très intéressant, droit, avec des idées d'éther. Un mec sur lequel il faut se pencher. Mmh. Mais quand j'ai lu Nos, j'ai dit, c'est devenu un... Tu vois, il avait une chair.
Une substance.
Ouais. Il est... Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, mais au sens simple, quoi. Comme le poissonnier du coin. Mmh. Sauf que c'est le mec qui écrit des livres. C'est-à-dire qu'avant, c'était un écrivain. Après que j'ai lu Nos, c'était un... C'était un homme qui écrit.
Ça me fait penser au discours qu'il a eu quand il a reçu son
prix Nobel. C'est ça. Avant, j'avais écouté ce discours, mais je ne l'avais pas senti. Et quand j'ai lu Nos, j'ai fait « Ah ouais ». Oui, ou dans son discours où il dit que l'écrivain, il ne se détache de personne et qu'il montre son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous.
Il remercie tous ceux qui ne l'ont pas reçu.
Oui, enfin, il le dit qu'il le reçoit en pensant à tous ceux qui ne l'ont pas reçu et qui pourtant le mériteraient, qui sont enfermés en Europe. Ouais.
Ça retranscrit bien le travail, enfin, du moins l'idée qu'il a à chaque fois dans ses textes, ce côté social, ce main dans la main, toujours, Camus.
Ben, main dans la main et en même temps d'appartenir à ça et d'appartenir au monde qui, lui, est complètement neutre et indifférent, quoi, et de sentir ces deux choses. En tout cas, Camus, c'est vrai qu'il a un truc où il parle de notre existence, quoi. Camus, il parle d'un truc loin. Mais dans le sens où il n'est pas plus élevé, il est juste à un endroit dans qui il est très tôt, où il va s'intéresser à des choses existentielles, on va dire profondes, très profondes de sa présence là dans le monde, et il sent des choses tôt, très tôt. Tu vois, genre Nos, il a écrit ça à 22 ans, et ça c'est un livre qui s'appelle L'envers et l'endroit, c'est son premier livre. Il n'a jamais édité, il a publié plus tard, comme il explique dans la préface, notamment parce qu'en fait il existait à très très peu d'exemplaires, et que donc dans les années 40-50, ça c'est 33-4-5 par là.
Il avait 22 ans ça.
Il avait 22 ans, ouais. Ouais, 37, il sort à Alger en quelques exemplaires. Et donc 20 ans plus tard, il y a des gens qui l'achètent extrêmement cher, tu vois, il y a des riches qui peuvent l'acheter, ce livre est vendu par quelques éditeurs extrêmement cher, et donc Camus il dit, mais c'est pas possible, quoi, tu vois, je peux pas, enfin... Donc il sort le livre vraiment pour que le livre il soit vendu, n'importe qui puisse l'acheter. Mais il dit bien que c'est un livre qui pour lui n'est pas terminé, qu'il aurait bien aimé le reprendre, et que c'est pour ça que pour lui son œuvre elle a jamais vraiment commencé. Genre pour lui, à chaque fois qu'il écrit un livre, son œuvre elle est toujours au début, parce que pour lui ce livre il y a tout dedans. Dans la préface il explique qu'il le republie pour cette raison-là de l'argent, mais aussi parce que de toute façon il y a tout, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a été, c'est dans ce livre. Et il est différent de Nos. Nos il m'a touché parce que c'est... Il y a une vraie volonté, c'est poétique, c'est un essai, c'est philosophique, mais en même temps c'est très poétique. Tu sais, Nos, j'avais lu un des passages où il parle de choses très simples, il décrit la lumière, les fleurs sur le phare, l'odeur des absinthes, et dans ce qu'il décrit, il y a sa philosophie. Et c'est pour ça que je pense qu'il m'a touché. L'envers et l'endroit, c'est un peu différent, alors qu'il a écrit avant, genre 1 ou 2 ans avant. Mais pourtant, l'envers et l'endroit, le mec, il a 22 ans. Mmh. Et franchement, écoute ce que je vais te dire, tu sers, genre. Tu pètes un câble. Tu te dis, mais quoi, enfin...
Est-ce qu'on peut faire, ça tombe bien que tu dis ça parce qu'on va le lire, mais ça vous dit, Thelma, tu relis un de tes poèmes et on enchaîne avec Ilan?
Je sais si ça lui dit, je sais pas si...
Si vous voulez, moi j'étais chaud Camus là, mais...
C'est Camus. Comme
tu veux. Après la description d'Ilan,
oui, c'est vrai.
J'étais dedans moi.
Je voulais faire une petite interlude. J'aime bien tes interludes, Thelma.
Interlude.
Bah, je vais vous lire un chapitre qui s'appelle « Entre oui et non ». Bon, d'ailleurs, le livre s'appelle « L'envers et l'endroit ». Le premier chapitre s'appelle l'ironie. Le deuxième, il s'appelle entre oui et non. Le troisième, il s'appelle la mort dans l'âme. Le quatrième, il s'appelle amour de vivre. Et le dernier, l'envers et l'endroit. C'est très yin et yang. Hein. C'est... Mais c'est intéressant. Justement, c'est intéressant. S'il est vrai que les seuls paradis sont ceux qu'on a perdus, je sais comment nommer ce quelque chose de tendre et d'inhumain qui m'habite aujourd'hui. Un immigrant revient dans sa patrie, et moi je me souviens. Ironie, raidissement, tout se tait et me voici rapatrié. Je ne veux pas remâcher du bonheur. C'est bien plus simple et c'est bien plus facile. Car de ces heures que, du fond de l'oubli, je ramène vers moi, c'est conserver surtout le souvenir intact d'une pure émotion, d'un instant suspendu dans l'éternité. Cela seul est vrai en moi et je le sais toujours trop tard. Nous aimons le fléchissement d'un geste, l'opportunité d'un arbre dans le paysage. Et pour recréer tout cet amour, nous n'avons qu'un détail, mais qui suffit. Une odeur de chambre trop longtemps fermée, le son singulier d'un pas sur la route. Ainsi de moi. Et si j'aimais, alors, en me donnant, enfin j'étais moi-même, puisqu'il n'y a que l'amour qui nous rende à nous-mêmes. Lente, paisible et grave, ces heures reviennent, aussi fortes, aussi émouvantes, parce que c'est le soir, que l'heure est triste et qu'il y a une sorte de désir vague dans le ciel sans lumière. Chaque geste retrouvé me révèle à moi-même. On m'a dit un jour, c'est si difficile de vivre. Et je me souviens du ton. Une autre fois, quelqu'un a murmuré, la pire erreur, c'est encore de faire souffrir. Quand tout est fini, la soif de vie est éteinte. Est-ce ce qu'on appelle le bonheur ? En longeant ces souvenirs, nous revêtons tout du même vêtement discret et la mort nous apparaît comme une toile de fond au ton vieilli. Nous revenons sur nous-mêmes, nous sentons notre détresse et nous en aimons mieux. Oui, c'est peut-être cela le bonheur, le sentiment apitoyé de notre malheur. C'est bien ainsi ce soir, dans ce café mort, tout au bout de la ville arabe. Je me souviens non d'un bonheur passé, mais d'un étrange sentiment. C'est déjà la nuit. Sur les murs, des lions jaunes canaris poursuivent des chèques vêtus de vert, parmi des palmiers à cinq branches. Dans un angle du café, une lampe à acétylène donne une lumière inconstante. L'éclairage réel est donné par le foyer, au fond d'un petit four garni d'émaux verts et jaunes. La flamme éclaire le centre de la pièce et je sens ses reflets sur mon visage. Je fais face à la porte et à la baie. Accroupi dans un coin, le patron du café semble regarder mon verre resté vide, une feuille de menthe au fond. Personne dans la salle. Les bruits de la ville en contrebas, plus loin des lumières sur la baie. J'entends l'arabe respirer très fort et ses yeux brillent dans la pénombre. Au loin, est-ce le bruit de la mer ? Le monde soupire vers moi dans un rythme long et m'apporte l'indifférence et la tranquillité de ceux qui ne meurent pas. De grands reflets rouges font ondoyer les lions sur les murs. L'air devient frais. Une sirène sur la mer. Les phares commencent à tourner. Une lumière verte, une rouge, une blanche. Et toujours ce grand soupir du monde. Une sorte de chant secret né de cette indifférence. Et me voici rapatrié. Je pense à un enfant qui vécut dans un quartier pauvre. Ce quartier, cette maison. Il n'y avait qu'un étage et les escaliers n'étaient pas éclairés. Maintenant encore, après de longues années, il pourrait y retourner en pleine nuit. Il sait qu'il grimperait l'escalier à toute vitesse sans trébucher une seule fois. Son corps même est imprégné de cette maison. Ses jambes conservent en elles la mesure exacte de la hauteur des marches. Sa main, l'horreur instinctive, jamais vaincue, de la rampe d'escalier. Et c'était à cause des cafards. Les soirs d'été, les ouvriers se mettent au balcon. Chez lui, il n'y avait qu'une toute petite fenêtre. On descendait alors des chaises sur le devant de la maison où l'on goûtait le soir. Il y avait la rue, les marchands de glace à côté, les cafés en face et des bruits d'enfants courant de porte en porte. Mais surtout, entre les grands ficus, il y avait le ciel. Il y a une solitude dans la pauvreté, mais une solitude qui rend son prix à chaque chose. À un certain degré de richesse, le ciel lui-même et la nuit pleine d'étoiles semblent des biens naturels. Mais au bas de l'échelle, le ciel reprend tout son sens. Une grâce sans prix. Nuit d'été, mystère où crépitaient des étoiles. Il y avait derrière l'enfant un couloir puant et sa petite chaise crevée s'enfonçait un peu sous lui. Mais les yeux levés, il buvait à même la nuit pure. Parfois, passait un tramway, vaste et rapide. Un ivrogne enfin chantonnait au coin d'une rue, sans parvenir à troubler le silence. La mère de l'enfant restait aussi silencieuse. En certaines circonstances, on lui posait une question. « À quoi tu penses ?»« À rien, » répondait-elle. « Et c'est bien vrai. Tout est là, donc rien. Sa vie, ses intérêts, ces enfants se bornent à être là, d'une présence trop naturelle pour être sentie. Elle était infirme, pensait difficilement. Elle avait une mère rude et dominatrice qui sacrifiait tout à un amour propre de bête susceptible et qui avait longtemps dominé l'esprit faible de sa fille. Émancipée par le mariage, celle-ci est docilement revenue, son mari mort. Il était mort au champ d'honneur, comme on dit, en bonne place. On peut voir dans un cadre doré la croix de guerre et la médaille militaire. L'hôpital a encore envoyé à la veuve un petit éclat d'obus retrouvé dans les chairs. La veuve l'a gardé. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de chagrin. Elle a oublié son mari, mais parle encore du père de ses enfants. Pour élever ses derniers, elle travaille et donne son argent à sa mère. Celle-ci fait l'éducation des enfants avec une cravache. Quand elle frappe trop fort, sa fille lui dit « Ne frappe pas sur la tête !» Parce que ce sont ses enfants. Elle les aime bien. Elle les aime d'un égal amour qui ne s'est jamais révélé à eux. Quelquefois, comme en ces soirs dont lui se souvenait, revenu du travail exténuant, elle fait des ménages. Elle trouve la maison vide. La vieille est aux commissions, les enfants encore à l'école. Elle se tasse, alors, sur une chaise, et, les yeux vagues, se perd dans la poursuite éperdue d'une rainure du parquet. Autour d'elle, la nuit s'épaissit dans laquelle ce mutisme est d'une irrémédiable désolation. Si l'enfant entre à ce moment, il distingue la maigre silhouette aux épaules osseuses et s'arrête. Il a peur. Il commence à sentir beaucoup de choses. À peine s'est-il aperçu de sa propre existence. Mais il a mal à pleurer devant ce silence animal. Il a pitié de sa mère. Est-ce l'aimer ? Elle ne l'a jamais caressé puisqu'elle ne saurait pas. Il reste alors de longues minutes à la regarder, à se sentir étranger. Il prend conscience de sa peine. Elle ne l'entend pas, car elle est sourde. Tout à l'heure, la vieille rentrera, la vie renaîtra, la lumière ronde de la lampe à pétrole, la toile cirée, les cris, les gros mots. Mais maintenant, ce silence marque un temps d'arrêt, un instant démesuré. Pour sentir cela confusément, l'enfant croit sentir dans l'élan qu'il habite de l'amour pour sa mère. Et il le faut bien, parce qu'après tout, c'est sa mère. Elle ne pense à rien. Dehors, la lumière, les bruits. Ici, le silence dans la nuit. L'enfant grandira, apprendra. On l'élève et on lui demandera de la reconnaissance, comme si on lui évitait la douleur. Sa mère toujours aura ses silences. Lui croîtra en douleur. Être un homme, c'est ce qui compte. Sa grand-mère mourra, puis sa mère, lui. La mère a sursauté. Elle a eu peur. Il a l'air idiot à la regarder ainsi. Qu'il aille faire ses devoirs. L'enfant a fait ses devoirs. Il est aujourd'hui dans un café sordide. Il est maintenant un homme. N'est-ce pas cela qui compte ? Il faut bien croire que non, puisque faire ses devoirs et accepter d'être un homme conduit seulement à être vieux. C'est encore un peu long, est-ce que je continue enfin.
Oui, moi je voulais... Oui, continue.
Cool. L'arabe dans son coin, toujours accroupi, tient ses pieds entre ses mains. Des terrasses montent une odeur de café grillé, avec des bavardages animés de voix jeunes. Un remorqueur donne encore sa note grave et tendre. Le monde s'achève ici comme chaque jour et, de tous ses tourments sans mesure, rien ne demeure maintenant que cette promesse de paix. L'indifférence de cette mère étrange. Il n'y a que cette immense solitude du monde qui m'en donne la mesure. Un soir, on avait appelé son fils, déjà grand, auprès d'elle. Une frayeur lui avait valu une sérieuse commotion cérébrale. Elle avait l'habitude de se mettre au balcon à la fin de la journée. Elle prenait une chaise et plaçait sa bouche sur le fer froid et salé du balcon. Elle regardait alors passer les gens. Derrière elle, la nuit s'amassait peu à peu. Devant elle, les magasins s'illuminaient brusquement. La rue se grossissait de monde et de lumière. Elle s'y perdait dans une contemplation sans but. Le soir dont il s'agit, un homme avait surgi derrière elle, l'avait traîné, brutalisé, et s'était enfui en entendant du bruit. Elle n'avait rien vu et s'était évanouie. Elle était couchée quand son fils arriva. Il décida, sur l'avis du docteur, de passer la nuit auprès d'elle. Il s'allongea sur le lit, à côté d'elle, à même les couvertures. C'était l'été. La peur du drame récent traînait dans la chambre surchauffée. Des pas bruissaient et des portes grinçaient. Dans l'air lourd, flottait l'odeur du vinaigre dont on avait rafraîchi la malade. Elle, de son côté, s'agitait, geignait, sursautait brusquement parfois. Elle le tirait alors de courtes somnolences d'où il surgissait trempé de sueur, déjà alerté, et où il retombait pesamment après un regard à la montre où dansait, trois fois répété, la flamme de la veilleuse. Ce n'est que plus tard qu'il éprouva combien ils avaient été seuls en cette nuit, seuls contre tous. Les autres dormaient à l'heure où tous deux respiraient la fièvre. Dans cette vieille maison, tout semblait creux alors. Les tramways de minuit drainaient en s'éloignant toute l'espérance qui nous vient des hommes, toutes les certitudes que nous donne le bruit des villes. La maison résonnait encore de leur passage et par degrés tout s'éteignait. Il ne restait plus qu'un grand jardin de silence où croissaient parfois les gémissements apeurés de la malade. Lui ne s'était jamais senti aussi dépaysé. Le monde s'était dissous et avec lui, l'illusion que la vie recommence tous les jours. Rien n'existait plus, études ou ambitions, préférence au restaurant, aux couleurs favorites, rien que la maladie et la mort où il se sentait plongé. Et pourtant, à l'heure même où le monde croulait, lui vivait. Et même, il avait fini par s'endormir. Non cependant sans emporter l'image désespérante et tendre d'une solitude à deux. Plus tard, bien plus tard, il devait se souvenir de cette odeur mêlée de sueur et de vinaigre, de ce moment où il avait senti les liens qui l'attachaient à sa mère. Comme si elle était l'immense pitié de son cœur, répandue autour de lui, devenue corporelle et jouant avec application, sans souci de l'imposture, le rôle d'une vieille femme pauvre à l'émouvante destinée. Maintenant, le feu se recouvre de cendres dans le foyer et toujours le même soupir de la terre. Une derbouka fait entendre son chant perlé, une voix rieuse de femme s'y plaque. Des lumières avancent sur la baie. Les barques de pêche, sans doute, qui rentrent dans la darse. Le triangle de ciel que je vois de ma place est dépouillé de nuages du jour. Gorgé d'étoiles, il frémit sous un souffle pur et les ailes feutrées de la nuit battent lentement autour de moi. Jusqu'où ira cette nuit où je ne m'appartiens plus ? Il y a une vertu dangereuse dans le mot simplicité. Et cette nuit, je comprends qu'on puisse vouloir mourir parce que, au regard d'une certaine transparence de la vie, plus rien n'a d'importance. Un homme souffre et subit malheur sur malheur, il les supporte, s'installe dans son destin, on l'estime. Et puis un soir, rien. Il rencontre un ami qu'il a beaucoup aimé, celui-ci lui parle distraitement. En rentrant, l'homme se tue. On parle ensuite de chagrins intimes et de drames secrets. Non. Et s'il faut absolument une cause, il s'est tué parce qu'un ami lui a parlé distraitement. Ainsi, chaque fois qu'il m'a semblé éprouver le sens profond du monde, c'est sa simplicité qui m'a toujours bouleversé. Ma mère, ce soir, et son étrange indifférence. Une autre fois, j'habitais dans une villa de banlieue, seul avec un chien, un couple de chats et leurs petits, tous noirs. La chatte ne pouvait les nourrir. Un à un, tous les petits mouraient. Ils remplissaient leurs pièces d'ordures et chaque soir en rentrant, j'en trouvais un tout raidi et les babines retroussées. Un soir, je trouvais le dernier, mangé à moitié par sa mère. Il sentait déjà. L'odeur de mort se mélangeait à l'odeur d'urine. Je m'assis alors au milieu de toute cette misère et les mains dans l'ordure, respirant cette odeur de pourriture. Je regardais longtemps la flamme démente qui brillait dans les yeux verts de la chatte, immobile dans un coin. Oui. C'est bien ainsi ce soir. À un certain degré de dénuement, plus rien ne conduit à plus rien, ni l'espoir, ni le désespoir ne paraissent fondés, et la vie tout entière se résume dans une image. Mais pourquoi s'arrêter là ? Simple. Tout est simple. Dans la lumière des phares, une verte, une rouge, une blanche. Dans la fraîcheur de la nuit et les odeurs de ville et de pourriture qui montent jusqu'à moi. Si ce soir, c'est l'image d'une certaine enfance qui revient vers moi, comment ne pas accueillir la leçon d'amour et de pauvreté que je puis en tirer ? Puisque cette heure est comme un intervalle entre oui et non, je laisse pour d'autres heures l'espoir ou le dégoût de vivre. Oui, recueillir seulement la transparence et la simplicité des paradis perdus dans une image, Et c'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, dans une maison d'un vieux quartier, un fils est allé voir sa mère. Ils se sont assis face à face, en silence. Mais leurs regards se rencontrent. Alors, maman ? Alors voilà. Tu t'ennuies ? Je ne parle pas beaucoup ? Oh, tu n'as jamais beaucoup parlé. Et un beau sourire sans lèvres se fond sur son visage. C'est vrai, il ne lui a jamais parlé. Mais quel besoin en vérité. À se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils, elle est sa mère. Elle peut lui dire, tu sais. Elle est assise au pied du divan, les pieds joints, les mains jointes sur ses genoux. Lui, sur sa chaise, la regarde à peine et fume sans arrêt. Un silence. Tu ne devrais pas tant fumer. C'est vrai. Toute l'odeur du quartier remonte par la fenêtre. L'accordéon du café voisin, la circulation qui se presse au soir, l'odeur des brochettes de viande grillée qu'on mange entre des petits pains élastiques, un enfant qui pleure dans la rue. La mère se lève et prend un tricot. Elle a des doigts gourds que l'arithmétique a déformés. Elle ne travaille pas vite, reprenant trois fois la même maille ou défaisant toute une rangée avec un sourd crépitement. C'est un petit gilet. Je le mettrai avec un col blanc. Ça et mon manteau noir, je serai habillée pour la saison. Elle s'est levée pour donner de la lumière. Il fait nuit de bonne heure maintenant. C'était vrai. Ce n'était plus l'été et pas encore l'automne. Dans le ciel doux, des martinets criaient encore. Tu reviendras bientôt. Mais je ne suis pas encore partie. Pourquoi parles-tu de ça ? Non, c'était pour dire quelque chose. Un tramway passe, une auto. C'est vrai que je ressemble à mon père. Oh, ton père tout craché. Bien sûr, tu ne l'as pas connu, tu avais 6 mois quand il est mort, mais si tu avais une petite moustache. C'est sans conviction qu'il a parlé de son père. Aucun souvenir, aucune émotion. Sans doute un homme comme tant d'autres. D'ailleurs, il était parti très enthousiaste, à la Marne, le crâne ouvert, aveugle et agonisant pendant une semaine, inscrit sur le monument aux morts de sa commune. Au fond, dit-elle, ça vaut mieux. Il serait revenu aveugle ou fou. Alors le pauvre. C'est vrai. Et qu'est-ce donc qui le retient dans cette chambre, sinon la certitude que ça vaut toujours mieux ? Le sentiment que toute l'absurde simplicité du monde s'est réfugiée dans cette pièce. « Tu reviendras ?» dit-elle. « Je sais bien que tu as du travail, seulement de temps en temps. Mais à cette heure, où suis-je ? Et comment séparer ce café désert de cette chambre du passé ? Je ne sais plus si je vis... ou si je me souviens. Les lumières des phares sont là, et l'arabe qui se dresse devant moi me dit qu'il va fermer. Il faut sortir. Je ne veux plus descendre cette pente si dangereuse. Il est vrai que je regarde une dernière fois la baie et ses lumières, que ce qui monte alors vers moi n'est pas l'espoir de jours meilleurs, mais une indifférence sereine et primitive à tout et à moi-même. Mais il faut briser cette courbe trop molle et trop facile, et j'ai besoin de ma lucidité. Oui. Tout est simple, ce sont les hommes qui compliquent les choses. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, qu'on ne nous dise pas du condamné à mort, il va payer sa dette à la société, mais on va lui couper le cou. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait une grande différence. Et puis, il y a des gens qui préfèrent regarder leur destin dans les yeux.
Merci Hélène.
Ah ouais.
Merci Albert.
Merci Albert, comme tu le disais, j'ai pas compris.
Merci Albert. C'est ouais. Qui ce Albert
ouais, ouais, il est étonnant pour un jeune homme de 22 ans.
Et c'est 22 ans, ouais. C'est vrai que c'est important à dire, ouais. 22 ans, si tu écris des choses comme ça, d'accord.
Après, il avait la tuberculose. Et il savait pas s'il allait y passer ou pas.
Oui, peut-être que ça joue, mais ça doit jouer, il y a quelque chose d'inné quand même. Quand
dans la préface, il en parle quand même.
Enfin, c'est quand même beaucoup trop d'émotions, peu de phrases.
Ouais, non, c'est loin. Mais il vient de loin, il a senti tout ça.
Mais... ouais. Ce rapport qu'il a toujours à la mer, à chaque fois, moi, ça me... Je sais pas, il y a toujours... Quand il met l'image de la mer, à chaque fois, elle est implantée comme une fondation, quoi.
Bah, cette mer indifférente, ouais. Mais ce qu'il dit, à un moment, tu sais, quand il dit le silence de cette mer, c'est... La seule chose qui en a donné la mesure, c'est l'indifférence du monde. Mmh. C'est-à-dire que je pense que Camus, il a longtemps pas compris pourquoi il y avait ça... chez les hommes et autour de lui, mais chez les hommes, je veux dire, chez cette femme. Et quand il a capté qu'il y avait ça dans le monde, et qu'on était aussi le monde, peut-être ça, tu vois, c'était un c'était son chemin quoi. Parce qu'il a longtemps, à mon avis, il a longtemps pas compris. Genre, je pense que ce qu'il raconte, c'est bien pire que ce qu'on vient de lire. C'était des vrais silences, quoi. Sa mère, elle devait être d'une tristesse infinie, en fait. Mais lui, il a vu dans ce silence toute une forme de vie, tu vois. C'est pour ça que je te parle de résilience aussi tout à l'heure. Mmh. Comment derrière.
Ça aurait été intéressant qu'il soit peintre. J'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait fait en tant que peintre, comme lui.
Je sais pas, mais c'est un vrai. C'est bizarre parce qu'à la fois c'est des essais, c'est philosophique, il y a plein de choses philosophiques, mais en même temps, et encore celui-là, moins, mais Noces, c'est tellement. Mmh. C'est un peu comme ça, quoi, mais c'est tellement. On dirait des poèmes, quoi. On dirait. Il parle du fruit qui coule sur sa bouche. Et dans le fruit qui coule sur sa bouche, il y a tout, quoi. Toute la simplicité,
c'est
le bonheur de vivre.
C'est un peu des historiens de l'époque, les auteurs.
Un peu aussi.
En écrivant ce qu'ils voient, et ce sont un peu des passerelles entre le visible et l'écrit. Et en fait, tu prends l'écrit et tu apprends des choses que tu n'as jamais vues et tu te places du coup à, je sais pas, c'est un échange de regards que je trouve super, super chouette. J'ai jamais lu Camus et c'est une grande honte et je vais y le faire.
Mais il n'y a aucune honte. Au contraire, tu as la chance de ne pas l'avoir lu.
C'est vrai, c'est beau.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
On disait la même chose il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on a le temps encore de faire de la musique? Oui. On a 10 minutes, sachant qu'on a commencé en retard, mais on ne va pas rendre en retard les prochains. Et moi, je suis chaud de faire un peu de musique, que ce soit. On a un ukulélé ici. Mmh. Oh, c'est peut-être pas sûr qu'on va l'utiliser. On a des instruments aussi.
Pas sûr du tout, même. Hein.
Ah, et monsieur le technicien va être appelé à faire quelque chose.
Monsieur le technicien.
Alors, je vais choisir un instru, Hélène. Je te laisse te débrouiller avec tout le monde. Tu fais comme tu peux. Moi, je m'en vais. Ciao.
Vas-y, ciao. À de suite. Thelma, tu vas nous rappeler quelque chose?
Rapper quelque chose? Non, absolument
pas. Tu peux peut-être slammer un texte.
Je vais vous écouter avec joie et plaisir, par contre.
Ça m'a envoyé loin.
De dire Camus?
Ouais.
Ça m'a envoyé loin aussi. Non, en vrai, je suis trop, trop contente que tu aies lu Camus, que tu aies choisi Camus.
Ouais, ça fait plaisir. Bah, j'ai choisi, comme je disais, j'ai pas choisi. Hein. C'est moi, il me marque en ce moment.
Tu lis que Camus en ce moment?
Non, mais j'ai lu Camus en juin, Les Noces. Après, j'ai lu 4 ou 5 livres de Giono,
okay,
que j'avais jamais lu et qui m'a chaud ou bouleversé aussi, parce qu'il y a quelque chose de similaire d'ailleurs entre les deux. Mm. Et après, j'ai relu. Après, j'ai lu ça, L'envers et l'endroit de Camus. Ça a clôturé l'été.
Quelle clôture, quoi.
Non, j'ai lu Céline aussi, c'était bizarre ça.
Ah oui.
C'était intéressant. Mais...
C'est pas les mêmes. Ouais. Moi, j'ai du mal à lire en ce moment là. Faudrait que je le remette.
Alors, Claude.
Alors.
Tu as choisi une non instrumentale.
Bonsoir.
Je m'appelle Claude.
Bonsoir Claude.
23 ans.
Bonjour.
Je suis une femme, une conjointe.
Oui. Non, j'ai surtout une instru en fait.
Alors Claude, Thelma, voilà, premier date, première rencontre.
Thelma.
En direct.
Les inconnus.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors peut-être que le technicien va nous mettre une musique. Ouais. Ah, oh, c'est beau. Un peu plus fort. Oh, j'en demande trop. Léo. Disons que les choses ne sont pas comme on les pense, mais comme on les dit. Et comme on dit, je suis pas dans ta tête, mon ami, je suis dans tes propos. Alors je fais sûrement une bêtise si je te suis, mais je m'en fous. Je ne fuis pas devant un fou, ça m'a creusé des ennuis. Ça m'en causera toute ma vie. Marre des gens sains, marre des envies, les deux méfraits plus que les cauchemars de Freddy. Marre des regards supérieurs, je garde un œil sur la mer supérieure. Dans une autre vie, j'étais super rieur. Dans une autre vie. Elle s'est terminée dans un supérieux quand le cœur de ma douzie a torpillé par néfastes pensées. Morpillon d'un esprit cadencé. Comme pillon, mes propos sont insensés. Mon opinion m'empêche d'avancer. Je sais d'avance que tout est nuancé. Donc j'ai rien à craindre si je me mets nu en scène. Je serai un jour m'auto-influencé. Ne plus m'attacher à ce qu'ont vu mes ancêtres. Just one picture in my head. Adam et Eve, c'est pas dans du rêve. Just one picture in my head. Adam et Eve, c'est pas dans du.
La pyramide étire les classes. Imagine la pire des classes. On tuera le pharaon au pire des cas. Fuck l'image et les cas, tu suis pas cinéaste. Sur un petit terrain, les graines j'optimise. Fuck les bandes foules, je suis trop intimiste. J'ai pas peur du virus ni des hommes comme Alfred. J'ai peur des piafs car même les pigeons sont plus positifs. Pas besoin de vos mirages, je veux un vrai soleil, pas de néon d'hôpital. Besoin d'un gros cigare, personne me ravitaille. Je mets les pieds dans la boue, j'achète pas de cirage. Les laisse tels quels, le bonheur est comme un fou, comme un feu. Je crois que je vais les tanker. Les problèmes, c'est comme les pieds à la pétanque, faut qu'on les laisse tanker. Je suis pas né pour conquérir, je laisse vrai tamper. La mesure a fait une fin. C'est pas grave.
cas je l'ai rattrapé. Tu m'appelles comme une tasse. T'inquiète, je vais pas me rater. Non, je vais te matraquer comme si j'étais Castaner.
Je m'écœure qu'il y ait des gens en bas. Je descends l'échelle pour rejoindre le combat. La tour Eiffel est désormais la tour de Babel. Et ça balbutie dans de grands discours. Chaque fois qu'il bavit, laisse tomber des obus sourds. Les éclats de sang ne salissent pas leurs abyssales. Presque leur bêtise est abyssale.
Est abyssal, et puis les abîmales. On dirait des costards mal taillés. C'est le bordel, rien à foutre. Une veine, je crois que je vais me tailler à l'autre bout du monde pour trouver les secondes bonnes. Et les bonnes sont tranquilles, j'avance dans ce monde. C'est le bordel, dans ma tête, y'a comme des gospels. Comme si j'étais enfermé, j'entends le bruit des chaînes. Faut que je me déchaîne, fuck la haine et la peine. Je les pousse dans la scène, même s'il y a pas de scène. On pourra en construire une comme Thelma. Essayer de faire un chapiteau qui m'aimera. Je sais pas, c'est pas la question, je sèmerai des graines de paix plutôt que des graines de haine. J'essayerai toujours de m'appeler, mais je sais même pas comment m'épeler. J'ai perdu tous mes mots, tout. Mes alphabets, j'en vois qui soignent de mon corps, car ils voudraient marcher. Mais bon, c'est complexe, le décor finit par m'envoyer un vent et une horde de loups qui veulent me manger. J'ai repris les thèmes de l'émission, je crois que c'était la mission. Tranquillement, mauvaise vision, si c'est la tienne, c'est pas grave con. Garde-la et fais des ponts, tranquillement, fais des ponts. Et faut pas donner la leçon, c'est ce que tu viens de faire à l'instant même, c'est n'importe quoi. N'importe
c'est
quoi.
C'est bon, Saylan. Mais attends, tu fais ça souvent?
Non, je suis en 6ème, je fais ça pendant mes pauses, mes temps libres.
Tu l'as renvoyé?
J'essaye de garder une énergie folle. Yo.
Disséminé dans le temps, les idées de l'homme ne sont qu'un seul instant. Comme un coup de génie, je j'ai mis quand j'ai mis le doigt sur un de ces moments qui se répétera, je l'espère mille fois. J'ai mis le feu à leur baraque, un ermiteux face à leur calache. J'ai plus la suite de mon texte, pourtant il est tout nouveau. Je devrais l'avoir en tête, pourtant il est tout nouveau.
Bonsoir. On est prêt à danser le coudou ro coudou coudou.
Mais bon voilà, je sentais bien venir à la fin
okay,
du truc.
Ok, un G son, tu nous balances une dernière prod. L'instru ça direct comme ça. Allez, une dernière petite production.
Tu peux nous mettre la petite Mac Miller Tipeee. Ah, on nous fait signe.
Et oui, mais on a fait une dernière.
Désolé. Lucas.
Allez, c'est parti.
Allez, vas-y. Ok, c'est la dernière. Après, on va vous envoyer le jingle direct. Donc, on vous fait des gros bisous. Profitez bien de ce rap.
Ouais, merci Thelma d'être venu pour la deuxième fois.
Merci Lucas.
203, tu connais l'histoire.
Merci Radio Galère 88.4 sur l'émission La Rosée. On est parti sur une petite production musicale, instrumentale, rap, trap, hip-hop 2020. Hashtag.
Que des hashtags.
Que des hashtags dans ce monde, tout le monde veut avoir une image. Mais personne ne se montre, c'est le bordel, je vois que les sages ne sont même plus à la page. On a tous des regards d'apache car on reste indigène, indigné. Mais personne ne le montre, tout le monde préfère se cacher. Puis regarder sa montre, moi je veux pas courir après le temps, après le monde. Je préfère rester dans ma chambre.
On fait de grandes tablées avec des gens au placé, quasiment tous médaillés. Seulement si c'est la merde, ils seront les premiers à se tailler ailleurs. Ils déménagent en fuyard pendant que je voyage en tailleur. Ma peau, c'est mon costume, pas d'uniforme, pas de tailleur, pas de coutume posthume. D'ailleurs, j'ai Kyler, peau de crocodile, qu'ils parfument en vainqueur. J'ai les gros solides avec un seul jeté cœur. Imagine comme je te fume si j'allume mes vainqueurs. Imagine comme je te fume si j'allume mes vainqueurs. Yo, pas de violon, non. De la violence, yes, ouais. Puisque ces ravioles nous violent, hein, sans élégance. Yeah. L'image affiche.
Je veux pas décrocher des deux. Niégé comme plus d'école, plus d'équipe, des que des codes. Barre, étiquette, mauvaise cote. Mais je vais parier 10 steaks. Je suis honnête comme le sucre dans le cheesecake, mais discret comme le disque. Car je viens retourner l'industrie avec du rap prolifique. Je viens croquer dans le beefsteak. Je vois Cassidy qui nous dit de continuer ou pas. Je ne sais pas si on peut se lancer, mais bon, faut respecter le timing. Apparemment, c'est bientôt l'heure, c'est 18h. Moi, je panique, non, tranquille, on a le time. Je vois que Lucas me fait signe. J'avance tranquillement et désormais, Claude, je dessine.
À l'écart du panier, comme la pomme pourrie, personne ne m'a chassé. Je me suis simplement enfui, je voulais voler. Image classique, l'idée se décortique. J'osais penser qu'ailleurs, c'est féerique. Une des briques de la tour de la réalité a eu vite. De me tomber sur le nez et l'autre monde apparaît.
Paraît que je suis pas le premier.
Ça fait capoter la vérité à parfois
de sales effets.
Parfait, maintenant que je le sais, je peux avancer, penser insensé. En fait, l'idée c'est que c'est le début d'une longue traversée. T'as versé des milliers de larmes, t'as fait face à tellement de lames. Qu'en cet instant, aucune arme ne peut blesser ton âme. Parfois, la fureur des gens est plus dure qu'une guerre sanglante. Une vie sans montée, sans pente, peut détruire des têtes pensantes. Pensez-y, conneries ont parfois plus de. conséquence qu'on ne le réalise et s'aiguise le sable de l'ignorance, de la dépendance, de tout ce qui est de l'ordre, du désordre. Ouais, c'est ça. Je crois que je touche un point. Le rap est un gros point, yo.
Fuck les bastons, fuck la haine, fuck les patrons, je m'en vais jouer de la trompette sur la lune à la Louis Armstrong. Inutile de rester fou quand la paix frappe à ta porte. Inutile de perdre des sous pour une liberté qui va te mordre. Je suis comme un gamin des rues quand le soleil disparaît. Les pieds nus, il paraît que j'ai l'air tarpin déçu. J'aurais rêvé de voir ces ciels rougeoyants, ces pâles symboles, ces aurores lactescentes. Mais je suis pas Rimbaud. Le monde est vaste et grand, libre et attrayant. Mais leurs images d'écran livrent des présages décevants. Alors comment savoir, comment croire tous les jours quand son voix sans le dos courbé comme la terre, toi sous les coups, que voulez-vous? Fuck vos belles paroles, la morale et vos sagesses. Et puis debout les fous, ouais. Debout les fous, debout les fous,
debout les fous. Yeah.
Yo. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux.
Ok, on va peut-être pas en renvoyer une autre, même si l'envie est là. Avec Sidi à côté.
C'était l'arrosé sur le 88.4. On va peut-être les laisser là-dessus. On vous fait des énormes bisous.
Yes.
Et on vous retrouve dans un mois, tous les 3e lundi du mois, de 16h30 à 18h, l'arrosé 88.4.
Merci Ilan, merci Thelma et merci Lucas. Bonne soirée à tout le monde. On embrasse ceux qui nous embrassent.